Cette intervention, en fait, je l'avais préparée pour un séminaire d'un laboratoire d'urbanisme qui s'intéresse à la sensorialité de l'espace et qui m'avait demandé de faire une intervention dans un séminaire qu'ils organisaient avec François Laplantine sur comment l'enfant pouvait percevoir et investir l'espace avec ses sens et sa corporéité. Donc, j'ai essayé d'y réfléchir, puis je l'ai un petit peu actualisé pour aujourd'hui, justement pour envisager l'intervention sur les corps que les enfants des rues mettent en jeu et mobilisent à l'intérieur de l'espace public. Et comment est-ce que pour nous, dans notre imaginaire occidental, ça peut sembler extrêmement incongru, extrêmement choquant, et voire même quels sont les usages qui sont faits de cette incongruité, consciemment ou inconsciemment, par les enfants pour obtenir plus de compassion et donc parvenir à leur fin, de leur présence. Alors, évidemment, l'enfance dans notre imaginaire, c'est les courses, les cris, les caresses, les regards, l'innocence, la joie des souvenirs de sa propre enfance, les gazouillis. C'est tout un cortège de symboles qui sont positifs, maternels. Et puis pour une société, c'est évidemment l'optimisme d'avoir une descendance qui est assurée, donc c'est l'avenir. Bon, mais ceci étant, ces signes sensibles, quelquefois, traduisent la fragilité d'un être, et un pédiatre que tu es bien placé pour le savoir, de même que le pédopsychiatre, cet être qui doit être contrôlé. Parce que s'il échappe trop tôt à l'emprise de l'adulte, il va devenir ce fameux enfant sauvage qui est totalement asocial, roublard, et qui, surtout si c'est l'enfant des autres, sera interprété de façon extrêmement péjorative. Alors, dans la place publique, on va voir si ça fonctionne. Hein. Vous entendez ou pas? Voilà, j'essaye. Bon, la place des enfants dans l'espace public, ça fait partie du paysage rural. Ils batifolent sous l'œil bienveillant de l'adulte, quelle que soit la culture ou l'environnement. Il y a toujours un regard bienveillant de l'adulte qui est là pour mesurer comment ces comportements peuvent être adaptés et peuvent être acceptables. Et cet œil bienveillant de l'adulte va structurer un imaginaire positif de l'espace public, la place du village, le centre du campement, où en fait la sécurité est assurée par le regard de l'adulte et qui va comprendre les signes sensibles de l'enfance. Hein. Voilà, donc en milieu urbain, on a le même jeu qui se reproduit de façon plus ou moins facile, plus ou moins aisée. Sauf que, dans les métropoles, l'organisation de l'espace public ne laisse plus de place à ce regard bienveillant de l'adulte. Il n'y a plus rien à voir avec cette dimension humaine. On se retrouve avec une circulation automobile qui envahit tout le foncier disponible et qui relègue la présence humaine, celle qui est non véhiculée, les piétons, à trois types d'ordre. Le premier, c'est les acheteurs qui font du shopping dans des espaces très très spécifiques. Le deuxième, les quartiers pauvres, qui reproduisent à leur manière les espaces ruraux, hein, faisant un petit peu de football, etc., réoccupant l'espace public. Et puis, les exclus, hein, ceux qui investissent les zones d'échange économique dans le but d'interférer avec ces échanges. Mendicité, monnayer une place de parking, voler, monnayer une place dans les conduites accompagnées, ce que j'ai vu à Jakarta, où les enfants des rues sont à l'entrée de l'autoroute, parce que l'autoroute n'est accessible que si on est trois dans l'intérieur de la voiture, et donc les gens prennent les enfants des rues dans la voiture pour pouvoir prendre l'autoroute et les larguent de l'autre côté de la ville, comme ça ils ont réussi à passer le covoiturage. Et donc moyennant finances, évidemment, les enfants ont trouvé ce moyen pour être là. Ou bien, profiter de la vacance temporaire de certains espaces pour y trouver un abri. De fait, comme tu le décrivais, Étienne, l'odologie, donc l'espace public qui est le cheminement, il est devenu incongru de rester, il est revenu incongru de stationner dans la rue, dans l'espace collectivement sacrifié pour la mobilité et pour le, pour le déplacement. J'ai mis ici ce défense nationale de la RATP, c'était un article 53 de l'ordonnance de police du 3 août 1901 qui interdisait de rester sur le quai du métro plus de 3 rames de métro. C'était un délit susceptible d'emprisonnement si on restait plus de 3 rames de métro sur le quai du métro, puisque l'espace odologique est strictement odologique, c'est-à-dire pour le cheminement. Et tout maintien dans l'espace était un problème. Alors, dans les métropoles ségrégationnées, on voit ici la caricature de cette ségrégation, où de part et d'autre de ce mur extrêmement fin, il y a une différence de potentiel électriquement extrêmement dangereuse. Les enfants connaissent trois situations, sur lesquelles je ne reviendrai pas en détail. C'est à la rue, l'enfant fugueur, dans la rue, celui qui travaille dans la rue, et de la rue, celui qui a complètement coupé toutes ses racines familiales et qui va vivre, dormir, et ce qui recouvre des réalités socio-anthropologiques très différentes et des modalités pédagogiques aussi extrêmement spécifiques. Mais ces trois situations partagent quand même la caractéristique de l'absence totale de regard adulte bienveillant. Total. Avec, à l'inverse, plutôt des regards inquiets. Que va-t-il pouvoir me faire, cet enfant ? Voire réprobateur. Que fait cet enfant tardivement dans l'espace public ? Alors que l'enfant a droit dans ses espaces, dans les classes moyennes, est gardé chez soi, isolé de ses congénères, devant son ordinateur, ou bien assemblé en groupes homogènes de pairs, des collèges privés, des clubs sportifs privés, d'où émergent des cris insupportables qui sont les gamins qui vont jouer au football à gauche dans l'espace public. Alors, quand on arrive dans cette métropole, vous voyez, Belo Horizonte ici au Brésil, on a cette ségrégation extrêmement forte entre la classe moyenne à gauche et la favela à droite, que ne sépare même pas l'étendue d'eau puisqu'elle est partagée entre les deux. Mais on arrive dans les favelas, l'espace est envahi de cris d'enfants. Il joue au foot, ça vit, ça bouge, ça grouille. Chez les classes moyennes, c'est le grand silence, le désert public, avec des enfants qui s'ennuient. Et l'enfant qui va donner des signes visibles de sa présence dans cet espace public y est un intrus. Il ne devrait pas être là, il ne devrait plus être là. Alors cette présence extravagante aux yeux de l'adulte va induire chez l'enfant une attitude elle aussi extravagante. Rôles et postures qui finissent par être attendus du fait de l'apprentissage d'interaction dans le cadre de détournement des usages attendus de l'espace public. Vous voyez ici que le regard met en forme autant qu'il perçoit, particulièrement dans la relation adulte-enfant. Ce petit enfant qui est dans la carriole de son père, Banabana, il est tout juste admis parce qu'il est dans la carriole. Serait-il par terre qu'il serait un intrus ? Et la perception visuelle va assigner un rôle. L'induction des regards agressifs chez l'enfant, en réaction à une perception dégradante, va en être une des conséquences. Le regard adulte posé sur cet enfant présente une perception péjorative et compassionnelle qui suit une distance symbolique des signes sensibles de l'enfance qui n'a pas à être dans la rue, perçu comme misérable et donc inquiétant. Dans le cadre de ce détournement, il existe une grande multiplicité de registres de perception et de communication pour l'enfant lui-même qui va structurer sa personnalité au travers de ce regard. Parce que cette présence est en effet le lieu du logement, le lieu du marché, le lieu de prise de toxiques, tout en étant, du fait même de l'âge, l'espace de construction d'identité de cet enfant, de sa socialisation et finalement d'apprentissage du rapport à l'autre, en particulier adulte. Le corps de l'enfant va être mis à contribution dans chacune de ses interactions. Les registres de communication vont conditionner une survie économique, c'est la compassion, et la peur. Plus l'enfant sera susceptible de susciter la compassion, plus l'adulte va avoir une propension à donner de l'argent. Plus l'enfant va être susceptible d'effrayer l'automobiliste au feu rouge, plus cet automobiliste va être tenté de lui donner une pièce pour acheter sa sécurité. L'enfant des rues apprendra à utiliser tour à tour ses registres et à se mettre en scène dans ce but. Gémissements, plaintes, postures de soumission, accrochage de manches, tout geste et posture qui fracasse les expectatives des signes sensibles habituels de l'enfance, qui est cet enfant, qui a besoin de caresses, de tendresse, d'amour et de compassion. Plus la violence du choc des symboles est grande, plus la compassion va pousser à se délivrer de la culpabilité ou de la peur en donnant de l'argent. Du coup, les enfants n'hésiteront pas à surenchérir, en particulier dans la saleté, qui engendre d'autres signes sensibles. L'odeur, qui renvoie à la vision cloacale de l'espace public. Et rappelons-le, cet espace public, symboliquement, c'est l'espace de transit, comme le transit intestinal. Les références aux matières fécales pour imager l'espace de la rue misérable sont infinies. Je l'ai trouvé même dans les travaux scientifiques de collègues que nous avions croisés, Étienne et moi, dans les années 90, où des collègues osaient écrire que les enfants des rues sniffaient de la merde pour se shooter, ce qui n'est absolument pas le cas. Jamais, 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 les matières fécales ne servent de toxiques. Ça serait trop facile. Mais c'était les références en matière fécale simplement pour reprendre les oppositions classiques du propre et du sale. Hein, et que la rue, c'est de la merde. S'il est des sens reproductibles comme lieu de le visuel, l'odorat et le goût ne peuvent pas encore l'être, du moins pas complètement. Et le toucher, pas non plus, ce qui est quand même très important dans l'interaction avec ces enfants qui vous palpent, vous tapent en montrant leur bouche réputée affamée. La peur est un autre geste, revendication de territoire par le geste, par l'occupation aussi, en sniffant de la colle. L'occupation ainsi devant le musée de l'or de Bogota, toutes les nuits, dès la fermeture des grilles, ces enfants occupent les marches de cet endroit hautement touristique pour sniffer de la colle parce qu'ils y sont laissés tranquilles. La peur est décuplée par le nombre et l'insaisissabilité de ces enfants qui sont éparpillés comme un vol de moineaux, comme ils sont décrits, ou comme un récent travail à Abidjan, on les traduit par les microbes maintenant. Ce sont les microbes qui sont insaisissables. Au-delà de la crainte directe, la présence d'enfants dans la rue symbolise aussi la toujours possible détérioration de sa propre situation et de la situation de sa propre progéniture. Tout en confirmant la hiérarchie des valeurs, ce titillement de la culpabilité réaffirme la fragilité de son propre posture et donc l'importance d'assurer son soutien. Finalement, le décentrement, le dépaysement pour le marquage parfois brutal des présences, des places détournées. Et je me souviens que sur cette rue-là, à Bogota, il y avait des enfants qui étaient hors champ et qui, tout d'un coup, là, c'était un samedi, donc heure de grand shopping, avec, vous voyez, beaucoup de classes moyennes qui circulent. Et un des gamins s'est mis debout, s'est interposé en écartant les bras, de façon à ce que les gens fassent un cercle autour de lui. Mais ce faisant, c'était simplement pour affirmer son existence, son identité. J'existe puisque vous me contournez. Tant que je suis dans mon coin à ne pas vous déranger, je n'existe pas, vous ne portez même pas un regard sur moi. Et donc, affirmer, créer la peur simplement pour affirmer son identité et son existence, pouvoir jouer d'existence.
Et provoquer de la peur en faisant ça.
Oui, provoquer de la peur. Bah parce que tu as un gamin comme ça qui est assez costaud, qui bloque le passage, c'était pas si large, tu vois. Il y a quoi? Il y a 3 mètres, donc tu devais vraiment contourner si tu voulais pas qu'il te donne une baffe. Il n'avait pas du tout l'intention de donner une baffe, pas du tout. Il voulait simplement exister par cette interposition dans le flot incessant des acheteurs du samedi matin qui venaient dépenser. Eh bien, le jour où tu verras dans un espace comme ça un grand mec d'1m80 qui se met face à toi et qui boit les bras, tu me diras comment tu te ressens.
C'est un enfant si c'est un grand mec d'1m80.
Bah, c'est 15 ans, oui, c'est peu, hein, 14-15 ans.
Et dans le contexte de la Colombie, avec toutes les violences quotidiennes qui s'exercent dans tous les contextes.
De la hiérarchie sociale qui s'impose. Le gamin est sale en plus, hein. Il est très sale, il sent mauvais, tu le supposes un peu shooté à juste titre. Donc tu as tout à craindre en fait de cette irruption dans ton espace physique, dans ton aura. Tu as ta distance de fuite, ce qu'on appelle chez les animaux, la distance de fuite, en deçà de laquelle tout animal n'a pas d'autre réaction que d'attaquer. Et voilà. Alors, dans cet espace, on a un usage alterné. Hein, les enfants vont occuper l'espace public de façon spécifique sur les instants ou les périodes. Le feu rouge va transformer une autoroute pétaradante en un marché joyeux jusqu'au prochain feu vert. Hein. L'échange de regards va permettre, face à une soumission souvent feinte mais toujours réelle car c'est le pied du conducteur et c'est l'accélérateur, une demande, une injonction de donner à laquelle il est impossible de ne pas répondre. Alors que l'idée générale est que cette relation se déroule dans une insurmontable inégalité, il s'établit en réalité un véritable rapport de force entre les occupants de l'espace parfaitement perceptible, où c'est pas sûr que celui qui est dans la voiture soit le plus faible. Bon, on l'a vu récemment avec l'attaque de la voiture de police, soit le plus fort, je veux dire, avec soit le plus fort, pardonnez-moi. L'impression de violence sourde, de tension sociale palpable, qui donne à l'ensemble de l'espace public de la ville une certaine tonalité. Le feu passe au vert, les lieux sont lâchés et les enfants rient de nouveau. Un point essentiel, alors pour revenir sur la notion d'odologie d'Étienne, mais que moi je vais actualiser, c'est la notion des cartes isochrones. C'est-à-dire la perception de l'espace, non plus en fonction de la distance physique, mais en fonction de la distance temporelle qui sépare deux lieux. J'ai mis ici la carte d'Île-de-France à partir de Montparnasse, hein, à droite, c'est-à-dire du temps consacré pour aller dans l'espace. Et on voit que on va plus vite à Saint-Denis que dans le 15e arrondissement, du fait de l'existence du RER B. Eh bien, les enfants des rues ont cette conception isochrone de l'espace. Et quand on les interrogeait à Belle Horizonte sur leurs itinéraires respectifs et là où ils allaient plus facilement, ils disaient « je vais à la mer, c'est très facile, c'est tout à côté, la mer est tout à côté ». Alors que quand on leur demande « est-ce que tu vas à l'hôpital ?»« Ah non, 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 c'est très très loin ». Physiquement, évidemment, la distance était incommensurable puisque la mer est à 100 km, l'hôpital est à 10. Sauf que les transports font que comme ils étaient à la gare, ils grimpaient dans un wagon et en trois quarts d'heure, ils étaient à la mer. Alors que pour aller à l'hôpital, ils devaient changer quatre fois de bus ou y aller à pied, ils en avaient pour 2h30. Donc, cette représentation de l'espace n'a rien à voir avec la représentation géométrique que nous pouvons véhiculer. Et lorsqu'on travaille avec ces enfants pédagogiquement, il est très important de s'inscrire dans leur propre vision de l'organisation spatio-temporelle.
Est-ce qu'on peut le faire? C'est peut-être une sixième représentation de ça.
Est-ce qu'on peut le faire réellement?
Ah oui, oui, on peut le faire réellement quand on se passe justement sur cette carte-là. Quand on voit que, je ne sais pas si toi, Étienne, tu vois parce que c'est une étoile. Et ça n'est plus le rond parisien. C'est une étoile à cinq branches en fonction des lignes de métro et de RER. Et c'est un effort de l'éducateur de se plonger dans cette représentation. Alors je pense que c'est la modernisation de l'odologie.
Oui, oui.
Voilà. Puisque c'est en fonction des moyens de transport mis à disposition et plus
en
simplement.
En mobilisant aussi des représentations topocentriques, puisque ce sont les fonctionnalités de l'hôpital, de l'accès à la mer, du service, etc., qui vont faire jouer ensemble ces multiples possibilités.
Tout à fait, tout à fait. Alors... La présence des enfants dans la rue moderne, pour finir, est une réelle incongruité, un non-sens, une absurdité insupportable qui ne peut engendrer que du conflit interne chez les passants, lesquels vont le projeter dans leur interaction avec les enfants. Et pour ces enfants, il sera naturel de se couler dans le rôle que le regard adulte leur assigne. Pour autant, les enfants occupent l'espace, investissent l'espace. Et j'ai ici... la propension des taggeurs à mettre leur code postal comme marque d'identité. Donc, vous voyez, il y a 93-700, Drancy, 94-400, évidemment, Vitry, 140, le Moulin des Lapins du 14e, 75-014, et puis vous avez 75-006, Vavin, ce qui n'est pas un quartier particulièrement
populaire.
Donc, et au-dessus de la gare Montparnasse, vous avez un Rennais qui est venu mettre son 35-200 sur la passerelle qui surmonte les voies de la gare Montparnasse. Bon, tout ça pour dire que l'occupation est aussi par des signes tangibles, des graphes, des tags, des codes postales. La transgression est recherchée parce que écrire un code postal, ça peut être sanctionné par la police. Le défi est permanent, mais la position de la rue est pour cela, avec en même temps ce délit d'appartenance à l'inscription territoriale. Et... En dernier, eh bien, l'institution peut quelquefois aussi détourner les choses, hein, puisque nous avons fait un graphe officiel samedi dernier à Vitry, et donc je suis content d'avoir trois vitriotes ici, puisque dans un moment de cirque, on a fait la préparation du 1er décembre 2016 avec les jeunes de la mission locale et du foyer de jeunes travailleurs qui ont graffé à toutes autorisations demandées à la police, au conseil départemental, qui appartient au mur, sur la prévention du VIH et des IST, et donc réinvestissant positivement l'espace public sous le regard amusé, quelquefois courroucé, des passants.
Quelquefois courroucé.
C'est où Quelquefois courroucé. Ça, c'est à Chériou.
À Chériou.
Chériou. Pas de Chériou.
Je sais pas, je sens d'avoir vu quelque chose, mais...
Voilà, et ça a été fait, on l'a fait samedi dernier. Voilà, et ça sera présenté, il y aura une présentation au centre municipal de santé dans la semaine du 1er décembre, prévention du VIH, avec les jeunes qui l'ont fait et le graffeur. Voilà quelques rapides aperçus de l'occupation de l'espace public par ces jeunes et enfants.
Hors du sujet, est-ce qu'on peut obtenir sur les affiches qui réclament pour la prévention du VIH, le dépistage, il n'y a pas que des noirs?
Bien sûr, ça a été réclamé bien souvent, ça a été réclamé très très souvent, et refusé pour des raisons de ciblage spécifique de population par les autorités nationales. Parce que le VIH se retrouve quand même majoritairement chez les populations hétérosexuelles africaines, subsahariennes, et essentiellement d'Afrique anglophone. Beaucoup moins d'Afrique francophone. On se retrouve par exemple au Botswana avec 25% de la population séropositive, alors qu'au Mali on est à 5-6%. Pour des raisons qui ne sont pas encore expliquées. Enfin, on a quelques pistes, mais enfin ça nous amènerait trop loin.
Et ça fait 10 ans qu'on tourne quand même encore en rond.
Non, en fait, on a des pistes sous les pratiques sexuelles, oui. Sur les pratiques sexuelles et sur... parce que, clairement, la pratique vaginale est beaucoup moins transmissible que la pratique anale. Et en Afrique anglophone, c'est quelque chose qui est assez fréquemment utilisé.
Mais je ne sais pas, mais enfin, il y a des recherches quand même qui vont dans le sens où la contamination, notamment par le virus du sida, dans des populations migrantes, je ne veux pas dire de bêtises, mais pratiquement 49% ce sont des contaminations qui sont faites ici.
Non. Non, pas 49%.
Il y a plein de... Voilà.
Non.
On ne sait plus vraiment.
Non, il y a plein de choses qui circulent et qui ne sont pas vraiment documentées.
Des
choses qui circulent et qui ne sont pas documentées.
Et sous couvert d'enquêtes épidémiologiques, etc.
Non, sous couvert de relations journalistiques de pseudo-enquêtes.
Ah bon ?
Non. Il faut revenir aux sources des enquêtes. Oui, non, sérieusement. De même, ça nous éloigne du sujet, mais on est sur le 1er décembre.
Non, mais...
Les tests rapides d'orientation diagnostique qui sont maintenant en vente libre en pharmacie, destinés à couvrir un maximum de population, ont démontré leur inefficacité.
Inefficacité
totale, parce que ce sont des populations, ça marche chez les populations qui sont déjà en contact avec le virus symboliquement, comme les populations homosexuelles masculines, qui là, je ne